bienvenue dans votre magazine de reportage sur Radio Royan à portée de voix. Jean-Charles Pitou, bonjour.
Bonjour, Patrice.
Nous vous remercions de venir nous rendre visite et pas les bras vides, puisqu'effectivement, vous avez un livre dont vous êtes l'auteur et c'est justement l'occasion d'en prendre connaissance. Jean-Charles Pitou, déjà, bien pour un peu vous localiser, vous êtes un régional autour de Saint-Marcellin, le Royan.
Ouais, vers Saint-Étienne-de-Saint-Joire exactement, à Marciol.
Marciol, voilà.
Ouais. C'est dans les alentours, on va dire, on n'est pas bien loin, on est voisins, à vol d'oiseau.
Vous êtes l'auteur de ce livre qui est posé sur la table de notre studio, Les Déracinés de la Réunion. Un livre dont vous êtes l'unique auteur.
Co-auteur, c'est le troisième livre.
Troisième livre que
vous faites. C'était une biographie. Oui. Le deuxième, c'était un peu biographie, un peu d'histoire. Et puis là, c'est un peu plus complet, d'accord, on va dire. Mais d'abord, je veux vous remercier de m'avoir invité.
Voilà, c'est avec
merci.
Plaisir.
Merci.
Qu'est-ce qui vaut cette passion pour l'écriture ?
Ben, cette passion-là, c'est qu'il fallait raconter notre histoire. On a été 2500 jeunes à l'époque, dans les années 65, avoir été déportés, entre guillemets, j'ai bien dit déportés, entre guillemets, de La Réunion en France, pour repeupler certains départements de la France, c'est-à-dire comme le Cantal, la Creuse, il y avait 62 départements qui manquaient de main-d'œuvre. Et il fallait aussi repulper après la guerre et tout, voilà. Alors du coup, Michel Debré, à l'époque, a décidé, avec son gouvernement, de repeupler, voilà, de nous envoyer ici pour repeupler la France, voilà.
Alors c'est donc une aventure humaine, on peut dire, entre effectivement les racines et puis l'Europe, France. C'est ce qui a donné un premier déclic de aussi vouloir transmettre votre ressenti de vie, de cette vie.
Oui, il y avait ça aussi. Et puis en plus, comme j'ai beaucoup de camarades qui n'osent pas trop parler de ça, et que j'ai pu récupérer quelques témoignages qu'ils ont été bien gentils de... Alors du coup, j'ai fait retransmettre ça dans mon livre pour que les gens y connaissent mieux notre histoire. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les histoires des enfants déportés de La Réunion, ou les enfants volés de La Réunion, ou les enfants de la Creuse. Mmh. Voilà. Il y a plusieurs noms qu'on nous désigne. Voilà. Mais on fait partie de l'histoire de France.
Mmh. Parfois une histoire un peu méconnue ou mal comprise, c'est un peu en substance ce que vous voulez affirmer, c'est... l'histoire que vous avez pu vivre. Votre aventure, d'ailleurs, ça a été justement d'arriver dans ce secteur de la Creuse ou vous êtes arrivé dans d'autres lieux en France?
Moi, je suis arrivé ici, j'avais 9 ans. C'était dans le Cantal, à Quézac, exactement, dans le Cantal. Pas la Boisson, parce qu'il y a Quézac la Boisson et Quézac dans le Cantal. Il y a deux Quézac. Et oui, moi, je suis arrivé, j'avais 9 ans. Et on était une cinquantaine de jeunes à cette époque-là. Et même une famille entière de 11 enfants, de 2 ans jusqu'à 12 ans, qui sont arrivés en même temps que moi dans le Cantal. Voilà. Et du coup, ben après, moi, je savais lire ni écrire hein, quand je suis arrivé ici, à 9 ans. Par contre, mes parents, quand ils ont divorcé, mon père avait ma garde et il m'a confié à la DAS, mais après, je sais pas ce qui s'est passé. On m'a envoyé en même temps que mes camarades, mais par contre, comme je disais, je savais ni lire ni écrire. Ma grand-mère, elle était instite et directrice d'école. Mon grand-père avait les cars Pitou à La Réunion quand il y avait une vingtaine de bus. Mon père était architecte. Je pense pas que j'étais dans une famille et pauvre, on va dire, voilà. Et la plupart des jeunes qui sont venus ici, on a promis à leurs parents qu'on allait faire des études, qu'on allait être instite, qu'on allait revenir plus souvent à La Réunion. Et comme il y avait beaucoup qui ne savaient pas lire ni écrire des parents, ils ont signé une croix. Alors du coup, ils n'ont pas fait le rapprochement, ils ont tout envoyé en même temps.
Qu'est-ce qui pourrait donc émerger finalement de ce livre? C'est des témoignages, toute une vie passée. Vous avez pu aussi collecter effectivement bon nombre de paroles de vos proches ou de vos camarades?
Surtout de mes camarades. Parce que vous savez, nos parents, mon père est encore vivant, on va dire, ma mère elle est morte, mes grands-parents sont morts. C'est une histoire humaine que je voulais raconter aussi là-dedans. Parce que il y en a qui souffrent encore, qui n'ont pu retourner à la Réunion, retrouver leurs racines, retrouver leur enfance. Il y en a qui n'osent même plus aller à la Réunion parce qu'ils ont plus de famille. Et du côté, c'est vrai que les familles, déjà, ils n'osent plus en parler de ça. Peut-être qu'ils ont honte. Peut-être qu'il y a eu un truc qui ne passe pas, on va dire. Et du coup, ben, ils ont rejeté tout le monde, quoi. Et ça, les collègues, ils ont mal à, voilà, ils ont pas accepté ça, quoi, les camarades. Il y en a qui sont morts aussi, hein, entre temps.
La plupart sont donc nés à La Réunion et ont exilé en France. Et donc, c'était un enrôlement de force qui s'est produit à l'époque pour que...
Non, bon, pas enrôlement de force.
C'était une proposition d'émigration.
Voilà, il fallait repeupler la France. Il fallait repeupler la France. Et ils ont eu l'idée d'envoyer 2600 jeunes de La Réunion en métropole. C'était pour repeupler la France. Parce qu'à l'époque, les villages, les rurales, il manquait du monde. Alors du coup, il y en a beaucoup de mes copains dans la Creuse qui ont été traités comme des esclaves. Mais modernes, on va dire, hein, pas avec des esclaves modernes dans les en 1965. Il y avait un collègue qui avait témoigné qui mangeait avec les vaches dans les écuries. Il dormait pas dans un lit. Alors si c'était pour nous faire traiter comme ça, il valait mieux que nous restions au soleil.
C'était une main d'œuvre facile.
Voilà, facile. Ouais.
Et la volonté, donc, c'était de effectivement repeupler. C'était en quelle année, ça?
En 65.
En 65.
En 64, 65, ça a commencé. Jusqu'à dans les années 81, 82, quand je crois que c'était François Mitterrand qui a dit qu'il fallait arrêter cette histoire-là. Voilà. C'est lui qui a stoppé tout ça.
D'accord. Pour un motif aussi particulier de... Non pas lié spécialement à l'exploitation des gens ou...
Ben oui, le motif particulier, je pense qu'ils ont vu qu'il y en avait beaucoup qui souffraient, de leurs racines surtout. Et puis de pas voir la famille à côté. Alors je pense qu'il y a eu un déclic du gouvernement à cette époque-là. Mais ça a été reconnu bien tard, hein. On est passé à l'Assemblée nationale, on a été reconnu, voilà, quand... Maintenant, voilà, on fait partie de l'histoire de France, et même dans les livres de l'école, on va être inscrit dedans, voilà, que les gamins à l'école ils apprennent notre histoire. Et justement, moi, des fois, je fais des conférences dans les bibliothèques, dans les médiathèques, dans les écoles aussi, pour leur expliquer ce qui s'était passé à l'époque, et puis pour dire que bon, voilà. C'était pas une bonne solution. Au début, c'était dans le bon tempo, parce que c'est vrai qu'on disait, on va venir ici, on va prendre un métier. Pour nous, on voyait ça bien, parce que moi, j'avais 9 ans, je dis, on part, après, on va revenir. Mais après, ça a été, on a été livrés à nous-mêmes. Moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans, et la majorité était à 21 ans. Et j'avais personne de la DAS qui nous a suivis. Et moi, je touchais une paye à l'époque de 500 francs, 250 francs pour le restaurant et 250 francs pour le loyer. Il ne restait plus rien. Voilà de quoi on a vécu pendant, pour survivre surtout. Voilà.
Une génération brisée, c'est un peu aussi en substance qui vous a poussé à écrire et puis à chanter.
Oui, à chanter, et puis parce que aussi la musique est universelle, et c'est vrai que j'ai sorti justement deux CD là, un il y a 10 ans et puis un il y a 1 an pour expliquer tout ça en musique, on va dire. Mais bon, c'est vrai qu'avec mon association Génération Brisée, j'ai fait pas mal de choses justement pour qu'on puisse pas nous oublier, quoi. Voilà.
Et ben c'est justement la chanson que l'on va écouter dans quelques instants, dont vous êtes l'auteur, Jean-Charles Pitou, Génération brisée.
Voilà, exactement. Voilà.
En 65, pas grand-chose à penser. Insouciance, belle enfance, que du sable sous les pieds. Pas encore convoité, papa, maman, on s'aimait. Ils sont arrivés, ils nous ont tous alignés. Toi, toi, toi. J'ai été monté du doigt, je devais partir là-bas. Faut marcher, faut avancer, surtout pas penser, surtout pas poser de questions. T'es en vie, tu survis, c'est déjà ça. Liberté, égalité, fraternité, de quoi ils veulent parler? Si c'est ça la France, je préfère être rayonné. Voilà, rien demander.
Voilà, après ce titre « Génération brisée », reprenant le cours de notre discussion, Jean-Charles Pitou, autour de cet ouvrage « Les déracinés de la Réunion », la maison d'édition, en ce qui concerne ce livre.
Maison d'édition.
Donc c'est de l'auto-édition.
C'est moi qui le vends, et en même temps je fais des dédicaces à chaque fois que j'envoie le livre.
Voilà. C'est un livre ambassadeur que vous faites sillonner à travers différentes institutions.
À travers tout ce que les gens me demandent, parce que j'ai eu beaucoup de demandes par courrier, justement pour le livre. J'en suis à presque 200 livres vendus sur 300.
Oui.
Alors c'est déjà pas mal, oui, pour quelqu'un qui reste tranquille dans le petit coin. Mm-hmm. Voilà.
C'est que ça a donné aussi un bon écho, peut-être, à vos homologues qui, oui, se sont emparés de ce livre.
Ah voilà, ouais, juste en parler, ça me fait un peu le psy. Voilà, ouais. Voilà, ça me fait sortir tout ça de mon esprit, parce qu'il y en a beaucoup, justement, de mes copains qui sont morts à 60 ans, à 62 ans, à 59 ans, parce qu'ils ont tout gardé pour eux. Ils se sont pas exprimés. Ils n'ont pas évacué, même avec leurs enfants,
oui,
même avec leurs femmes. Ils ont resté dans leur coin.
Ouais.
Et c'est vrai que, bon, mes copains, mes proches copains de Quézac ça me fait mal quand il part, parce que on n'a pas eu, comme on dit, on a été séparés toute notre vie finalement, parce que nous, on était 50 enfants là-bas, mais on était comme des frères et sœurs, on était soudés. Mmh. Et quand il y a un de nous qui part, c'est un peu de notre histoire qui s'en va, parce que on connaît pas tous les histoires, on connaît pas toute leur vie. Et heureusement que j'ai pu récupérer quelques témoignages justement pour que je les mis dans le livre pour faire voir la souffrance. Mmh. Moi, à côté, c'est cadeau, on va dire. Mais eux, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souffert. C'est pour ça que quand ils m'ont dit, écoute, tu nous as donné un peu de parole. Mmh. Eh ben, je suis content parce que ça m'a fait du bien. Voilà. Quand j'entends ça, pour moi, l'olive, il est. Voilà.
Et pour vous, effectivement, ce livre représente un exutoire, en fait, de toute cette aventure, pas forcément aussi
joyeuse
sur toute la ligne, et très joyeuse, en sachant que l'exil concernait essentiellement donc les enfants, les parents n'étaient pas associés à ce départ. Hein. Mm-hmm. C'est un premier traumatisme.
Surtout pour les gamins, on va dire, parce que à l'époque là, dans le livre là justement, il y a un collègue qui dit que la DAS est venue les chercher avec une voiture rouge. Il les prenait au bord de la route, il les amenait dans la voiture. Ils allaient voir les parents en disant votre enfant traîne dans la rue, on va l'envoyer en France pour qu'il soit bien et tout, pour qu'on leur rende des gens bien. Et à la sortie, eh ben, les parents sont morts et les enfants sont ici. Et finalement, ça n'a pas été une histoire qui était bien à la fin, on va dire. Voilà.
Et bien pensé, réfléchi, organisé aussi par l'État.
C'était exactement.
Une situation d'urgence sans lendemain.
Sans billet de retour surtout. Oui. Parce que comme ils nous avaient promis qu'on venait souvent à la Réunion, on a attendu. Plus de 50 ans pour avoir le billet de retour. Et encore, on est obligé de monter à l'Assemblée nationale et tout. Et on a attendu 50 ans pour avoir le premier billet de retour. Et vous vous rendez compte, le temps que ça a passé, et qu'il y en a beaucoup qui ont souffert entre temps. Moi, j'avais un collègue de l'armée à Quézac, là-haut. Il était un peu plus vieux. Il devait aller à l'armée. Et ils étaient trois frères, et sur les trois, il y en a un qui s'est suicidé en allant à l'armée. Il a sauté du train pour ne pas aller à l'armée. Il avait à peine 20 ans, et la majorité était à 21 ans à l'époque.
Et la communication, en plus, était rompue entre les familles et les jeunes en exil ?
Affirmatif aussi, parce que on nous a coupé des parents, on nous a coupé de tout, finalement. Les parents, ils ne savaient même pas où c'est qu'on était. Ils savaient même pas si on était encore à La Réunion ou si on était en métropole. Ils savaient pas. Vous vous rendez compte le vide qu'il y a eu pendant 50 ans. Alors c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont, comme je dis dans le CD, il y en a beaucoup qui n'ont plus de famille. Ils veulent même plus retourner à La Réunion. Ils ont peur, ils ont honte de cette histoire-là.
Et puis plus rien. Quasiment.
Non, plus rien. Plus lien,
de
plus
lien.
Ni tante, ni cousine, ni cousin. Et on vit avec ça pendant toute notre vie, finalement. Je sais qu'il y en a qui sont plus malheureux. Ça, c'est sûr. Il y a toujours plus malheureux que soi. Mais quand on regarde un peu de tout, eh ben, finalement, dans notre malheur, on est quand même heureux, puisque il y en a beaucoup qui ont survécu à tout ça. Quoi. Voilà.
Et la descendance, il y a des choses qui se passent à travers bien les enfants de ces personnes exilées, des ressentis ou des discussions, enfin, il y a des choses qui...
J'ai eu la chance d'avoir un des fils de mes camarades qui est mort, père son âme, comme je dis, qui a voulu retourner à La Réunion pour retrouver ses racines. Et comme j'étais à La Réunion là, au début d'année, j'ai fait le lien... Je lui ai trouvé une famille d'accueil. Il a payé son billet. Celui qui a payé son billet, c'est pas le gouvernement. Hein. Il a pris le billet d'avion. Il est arrivé à La Réunion. J'avais tout organisé pour une famille d'accueil et tout. Et on a fait un article dans le journal. Et le jour même, l'article est apparu. Il a retrouvé sa famille. Alors là, ça, pour moi, c'était le plus grand bonheur aussi. Et j'étais content, il m'a invité, il m'a dit, voilà, je retrouve mon oncle, mes oncles, mes tantes. Et pour moi, je dis, ben écoute, c'est le meilleur cadeau qui peut exister encore. Voilà. Et ton père, là-haut, il doit être heureux parce que tu as retrouvé ta famille, tu as retrouvé quelqu'un de ton sang, de tes racines. Et le gars était tout content, il retourne cette année encore pour les revoir.
C'est une situation plutôt exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des personnes de votre génération qui sont retournées à La Réunion ?
Oui, qui sont retournées pour habiter aussi. Hein.
Oui.
Il y en a qui sont retournées pour y habiter, parce que bon, c'est vrai que La Réunion les manque quand même. Hein. Même qu'ils ont pas bien avec la famille, ils sont retournés pour habiter. Il y en a quand même pas mal. Hein. Mm. Bon, on ne sait pas combien, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont retournés vivre sur leur île, voilà, au soleil, comme il dit.
Donc, livre témoignage qui fait part de multiples photos, des photos que vous avez pu trouver dans des archives, c'est vos
non,
propres photos?
Non, des photos de mon album personnel.
Oui.
Que j'avais récupéré à l'époque, parce que on était chez des bonnes sœurs à Quézac, hein. On était dans une maison d'enfants, un orphelinat à Quézac, et les bonnes sœurs avaient pris quelques photos, du coup, elle me les a données. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu avoir pas mal de photos pour mettre dedans.
Eh bien, merci beaucoup pour la présentation de ce livre. On rappelle pour celles et ceux qui seraient intéressés de le lire, hein, de pouvoir le consulter, il y a différents moyens de l'aborder, ce livre.
Ben oui, on peut me joindre avec mon mail, Jean-Charles Pitou, @gmail.com. Ou le téléphone 06 07 88 81 15. Voilà.
Entendu, un prix de vente.
Oui, ben c'est 20 € plus les frais d'envoi.
Entendu.
Alors ça, voilà, les frais d'envoi, ça varie, où c'est qu'on envoie, puis voilà.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cette découverte, et merci de nous avoir rendu visite pour... toujours faire aussi un peu remettre
les choses à
les
la
choses,
place. Ouais,
voilà, place. Dans leur place, voilà. Dans leur contexte, et ne pas oublier aussi. Hein,
je peux aussi me déplacer dans les médiathèques, dans les bibliothèques, dans tout ce qui est municipal ou que je puisse expliquer tout ça, parce qu'étant donné qu'on fait partie de l'histoire de France, alors il n'y a pas de honte à se faire plaisir, comme on dit. Et je te remercie, Patrice, pour ton invitation encore.
Eh bien, Jean-Charles Pitou, on se quitte avec un deuxième titre dont vous êtes l'auteur.
Oui, c'est le dernier morceau que j'ai fait à La Réunion il y a un an. Ils sont tous là, voilà. Ils sont tous là, c'est un peu le résumé de notre vie, de ceux qui sont encore là, et puis ceux qui sont partis pour l'éternité. J'ai voulu leur rendre hommage à mes camarades, pour leur dire, ben, on pense à eux et j'espère qu'on va réussir ce qu'on a commencé, on va dire, ensemble. Voilà.
Merci Jean-Charles Pitou.
Au revoir. Au revoir. Merci.
Joie, émotion, plaisir de se retrouver, de se raconter nos chagrins, nos peines, nos joies. Dans leurs yeux, dans leur cœur, la même rage du traumatisme et des souffrances. Malgré ceux qui sont partis trop tôt, frères, sœurs, camarades.
Ils sont tous liés par la même histoire, les mêmes traumatismes. Thank you. et la même galère.
Joie et émotion, plaisir de se retrouver, de se raconter nos chagrins, papa, maman, on s'aimait. Combien ont été adoptés? Combien ont eu une éducation décente? Combien ont reçu de l'affection? Combien ont pu retrouver leur identité?
Ils sont tous là, ils sont tous liés par la même histoire, les mêmes traumatismes.
Quelle émotion devant ces bâtiments qui font résonner les traumatismes de notre enfance. C'est là que notre vie a commencé à basculer. Les uns placés dans des fermes, des établissements de la DAS, les autres placés dans des familles d'accueil et n'ont pu retrouver leur identité.
Ils sont tous là, ils sont tous liés par la même histoire, les mêmes traumatismes.
Vous êtes à l'écoute de Radio Royan et du magazine de reportage à portée de voix.
Fin de ce magazine à portée de voix sur l'antenne de Radio Royan. À bientôt pour d'autres interviews et reportages.